Alors, il n'est pas question là de jouer à asseoir, on fait peur au monde. Mais franchement, là, les chiffres qui viennent d'être rendus publics sur le réchauffement, pas de la planète, le réchauffement du Canada, du climat au Canada, sont vraiment là pas rassurants. OK? Je veux pas qu'on tombe dans le catastrophisme, là, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, si tout est perdu d'avance, on va changer de poste, puis on va écouter de la musique. Mais c'est inquiétant. Puis on va aller en discuter avec Louis Fortier, qui est biologiste, océanographe, directeur de la science et de l'innovation pour l'Institut nordique du Québec, mais aussi responsable scientifique du programme là, de recherche sur le brise-glace à Amundsen. Bonjour, Louis Fortier.
Bonjour.
Alors, si on se résume, la température moyenne sur Terre depuis 1948 a augmenté de 0,8 degrés Celsius, alors qu'au Canada, c'est deux fois plus, c'est 1,7 degrés Celsius en moyenne d'augmentation depuis 1948. Les gens vont dire 1,7 Celsius, là, franchement, là, est-ce que c'est-tu si grave que ça?
Déjà, ça a des impacts économiques là, puis sociaux importants en ce qui concerne l'agriculture, les infrastructures, etc. Et c'est seulement le début. Le Canada se réchauffe plus vite que le reste de la planète parce que le Canada est au nord et c'est le nord qui se réchauffe en premier.
Et pourquoi c'est le nord qui se réchauffe en premier?
Ben là, il y a quatre grands mécanismes qui expliquent ce qu'on appelle l'amplification là, polaire ou dans ce cas-là nordique du réchauffement planétaire. Le premier, c'est assez simple à comprendre, c'est l'effet d'albédo. C'est-à-dire que à ce moment-ci, hein, ou autrefois, là, il y a quelques décennies, la neige et la glace réfléchissent une fraction très importante de la radiation solaire. C'est pour ça qu'on les voit bien de l'espace. Là. Mm-hmm. 90% de la chaleur du soleil, si on veut, va être retournée vers l'espace par la neige et la glace. Mais au fur et à mesure que la planète se réchauffe, cette glace-là et cette neige-là sont de moins en moins abondantes. La surface neigeuse et la banquise arctique sont en train de diminuer. Et ça, c'est remplacé dans l'Arctique, dans l'océan Arctique, par de l'eau ouverte, de l'eau bleue. L'eau bleue va absorber la chaleur plutôt que la réfléchir,
ah oui.
Ce qui fait que l'océan se réchauffe, ce qui fait qu'il va y avoir encore moins de glace. La même façon sur le continent, plus la neige disparaît, plus c'est remplacé par de la végétation ou un sol foncé, ce qui fait que le sol va absorber la chaleur et à ce moment-là, il va y avoir encore moins de neige. Donc, c'est un cercle vicieux. Là, ça, c'est un premier mécanisme. Mm-hmm. Les trois autres, ben, c'est des mécanismes un peu similaires. Là.
Mais pourquoi d'abord c'est une si grosse nouvelle? Parce qu'on tombe un peu en bas de notre chaise. Là. Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, puis le nord du Canada se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète. Pourquoi c'est une nouvelle pour le commun des mortels que nous sommes? Là?
Ben, c'est une nouvelle répétition, si on veut. On avait déjà averti avec moins de certitude en novembre 2015, les scientifiques là, d'Environnement Canada, mais aussi d'Ouranos à Montréal, avaient prévenu les ministres et le premier ministre que ça se réchauffait, là, qu'on est sur le chemin qui nous amène à un réchauffement catastrophique de la planète. Et là, ben les dernières mesures puis les derniers résultats des modèles confirment encore ça. Donc, c'est important que les scientifiques le répètent régulièrement aux preneurs de décision.
Oui. Puis aux citoyens qui est supposé influencer les preneurs de décision, en tout cas qui votent pour eux autres.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est important qu'on donne des munitions, par exemple, où là, il y a les enfants, les adolescents commencent à s'inquiéter parce qu'eux autres sont évidemment impliqués plus directement dans ces changements climatiques-là. Hein. Ils vont les subir au complet. Et à ce moment-là, c'est important qu'on leur donne des munitions, que les enfants, les citoyens, ceux qui veulent influencer les preneurs de décision, aient les bons chiffres et disent, regardez, là, ça se produit. Là.
Mais je résiste à ça, Louis Fortier. Moi, je résiste à l'espèce de catastrophisme ambiant qui est en train de s'installer. Je crains ça, moi. Parce que je me dis, on peut pas accepter que la vie est sans avenir, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir un peu d'espoir puis d'avoir un peu d'optimisme. Je suis pas capable d'accepter ça, moi. Puis je crains que les nouvelles générations s'enfoncent là-dedans.
Ben moi non plus, j'accepte pas ça, Bernard Drainville. On peut pas se dire non, il n'y a pas d'avenir. C'est important d'avoir les faits, c'est important de se mobiliser, puis c'est important de de donner un espoir. Puis c'est ça que l'accord de Paris donnait à l'ensemble de la civilisation moderne. C'est un espoir. Mais aussi, il faut rappeler que ça sera certainement pas la fin de la vie sur Terre, là, ce réchauffement-là. Il y a eu des réchauffements dans les temps géologiques avant que l'homme existe, des réchauffements rapides et tout ça. Celui-là, celui qui est prévu, est extrêmement rapide puis extrêmement intense. Mais ça n'empêchera pas notre civilisation de survivre. C'est juste que si on se prépare pas, puis si on n'essaie pas de l'atténuer au maximum, ça va fesser trop fort, ça va être trop dur.
Comment on va s'en sentir, nous autres? Mettons, là, les gens qui vous écoutent, là, ils vivent dans la grande région de Montréal, là.
Ouais. Ben évidemment, c'est...
C'est quoi? On va avoir des inondations? Résumé,
mais,
c'est quoi?
Mais ce que les think tanks, là, c'est-à-dire les groupes de réflexion, les stratèges, le Pentagone, ce qu'on voit à l'heure actuelle, là, c'est un réchauffement important qui va nous amener peut-être à 3, peut-être 4 degrés de réchauffement. Ça va amener la faillite alimentaire dans plusieurs pays. Il y a plusieurs pays qui sont déjà en faillite alimentaire, par exemple, mais avec un réchauffement comme ça, ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'on va avoir des sécheresses, des invasions d'insectes.
Et des crises de réfugiés. Louis Fortier, si on trouve qu'il y a pas mal de monde qui se presse à nos frontières par le chemin Roxham, préparez-vous, il va y en avoir d'autres, là.
Tout à fait. Donc, faillite alimentaire des pays, puis aussi élévation du niveau de la mer qui vont inonder les grandes parties des pays qui sont juste au niveau de la mer, là, comme le Bangladesh, des places comme ça. Ça veut dire qu'on va avoir des immigrations massives. Là.
Sur le bord du fleuve, là, nous, là, quel impact ça va avoir?
Ben, disons que ça, c'est des impacts qui peuvent être contrôlés, qui peuvent être gérés, si on veut. Mais disons que pour dans le golfe du Saint-Laurent, le long de la Gaspésie et tout ça, jusqu'à Québec, là, mettons, on s'attend, si on continue dans la course actuelle, là, à des augmentations de 1 mètre à 1,5 mètre du niveau de l'eau. Là, vous allez me dire, c'est bien, ça, c'est pas un problème. C'est un problème quand ces augmentations de niveau-là sont... Ça, c'est pour la fin du siècle, là, 2100. Ça, c'est un problème quand ces augmentations des niveaux d'eau-là se combinent avec des tempêtes.
C'est ça.
On l'a vu à New York avec Sandy, là, tu sais, ils ont inondé Manhattan. Comme les infrastructures sont impossibles à déplacer, ça peut avoir des impacts gigantesques. Ça, c'est vrai pour le golfe Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent, puis toute la côte américaine, puis en fait, beaucoup de pays, la Floride, beaucoup de pays en Europe, en Asie. Donc, les impacts là, sont potentiellement gigantesques sur les infrastructures. Ça va... affecter l'ensemble de notre économie, là, c'est les compagnies d'assurance puis les réassureurs sont extrêmement inquiets de ça parce que ça, c'est l'épine dorsale de l'économie occidentale. Donc, les choses vont changer à cause des changements climatiques. Les choses dans notre vie de tous les jours, là, ça va changer de façon majeure. L'approvisionnement en eau douce, l'approvisionnement en nourriture, le rendement économique, tout ça, ça va être affecté directement.
Et conciliez-nous tout ça, là, dernière question, avec la température qu'on a eue cet hiver. Parce que, veux, veux pas, il y a des gens qui vous écoutent présentement qui vont dire, ben oui, c'est bien beau, vous nous servez des statistiques, vous nous sortez des rapports, mais nous autres, dans notre quotidien, là, ce qu'on a senti cet hiver, c'est qu'il faisait fret en maudit. Fait que le réchauffement, mettons, là, tu sais, on est sceptique.
Tout à fait. Puis à Québec, la neige, en plus. c'est pas l'albédo qui va diminuer.
C'est ça.
Mais ça, il faut pas mélanger météorologie, si on veut, puis climat. C'est deux choses complètement séparées, là. Moi, je peux vous prédire avec beaucoup de précision que le mois de juillet va être bien plus chaud que le mois de février. puis à une échelle plus grande que ça, sur plusieurs années, ce que les climatologues nous disent, puis là, on comprend bien ce qui se passe, puis tout ça, c'est que ça va être de plus en plus chaud. Les trois dernières années au Canada ont été les plus chaudes, malgré les différences majeures. Alors, vous me parlez du froid de cet hiver, mais avez-vous oublié les canicules en série qu'on a eues l'été dernier?
Non, je ne sais pas.
Ça n'a rien à voir. C'est de la météorologie surtout. Donc, il faut vraiment regarder les tendances à long terme. Puis les tendances à long terme, là, c'est on peut pas les contester, là, ça se réchauffe.
Fait que les climato-sceptiques qui nous écoutent, vous leur dites quoi en terminant?
Ben, moi, je suis pas là pour changer la vie des gens ou quoi que ce soit. Souvent, les gens vont être climato-sceptiques ou vont croire. On utilise le terme croire. On y croit ou on y croit pas. Les scientifiques, eux autres, ils croient à rien. Nous autres, c'est pas une question de croyance, là. C'est juste une question d'observation. Nous autres, on regarde les faits, les tendances, puis c'est ça qui se passe, là. Puis, C'est absolument pas une question d'y croire ou non. Là, c'est nous autres, on est devant les faits accomplis. Moi, je travaille dans l'Arctique. Si je pouvais amener tout le monde, et en particulier les climato-sceptiques, en Arctique, puis leur montrer qu'est-ce que c'était il y a 35 ans quand j'ai commencé, puis qu'est-ce que c'est maintenant, il y en aurait moins de climato-sceptiques.
Ouais. Louis Fortier, biologiste, océanographe, directeur sciences et innovations pour l'Institut nordique du Québec et responsable du programme de recherche sur le brise-glace Amundsen. Merci, Louis.
Merci, au revoir.